Je vais continuer l'étude qu'on a commencée dans Galates. On est rendu au chapitre 6, l'étude de l'Épître aux Galates à l'achève. On a passé à travers, on a vu plein de beaux points sur le fait que qu'est-ce qu'on a comme avancement dans le Seigneur, en Jésus, contrairement à la loi de Moïse. Mais les dernières études portaient sur la marche par le Saint-Esprit. Paul, on est rendu au chapitre 6, le verset 6. Puis Paul, il continue encore à nous expliquer certaines données sur la marche par le Saint-Esprit. Dans la continuité de la marche par l'Esprit, Paul y introduit un sujet intéressant dans le verset 6. Ça dit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Là, il est en train de parler du fruit de l'Esprit, puis là, il tombe sur la question de l'argent. Puis l'apôtre Paul, c'est comme si il est en train de dire que le rôle de ce qu'on doit remettre au Seigneur est important, aussi important dans la marche de l'Esprit que de marcher dans l'amour, puis dans la joie, puis dans la paix. Il nous dit dans ce passage-là que celui à qui l'on enseigne la parole, c'est tous les membres de l'Église, fasse part de tout leur bien à celui qui enseigne. Faire part, ça va, c'est de participer. C'est comme si tous les membres de l'Église sont appelés à participer, à entrer en compte ou à vivre en communion avec. Puis là, il nous parle en particulièrement de faire part de tous ses biens. Ça veut dire de participer, devenir participant, être un partenaire avec tes biens à celui qui l'enseigne la parole. Pourquoi? Mais c'est parce que Dieu a un plan dans son œuvre, dans l'Église. Dans l'Église, les finances puis l'appui du pasteur sont importants dans la marche par l'Esprit. Ça fait partie de la vie de l'Église. Le niveau de la finance, c'est aussi important que d'appuyer. Tu peux être une personne qui appuie. Ah oui, les pasteurs, lâche pas, le Seigneur nous bénit, puis on avance, let's go. On peut être quelqu'un qui appuie, puis si le pasteur dit on va faire telle activité, les gens sont là. Le monde appuie, il participe, mais on doit aussi participer avec nos finances. Ça fait partie du plan de Dieu. C'est comme si la marche selon l'Esprit de Dieu devrait être une marche ensemble accomplissant la même vision. C'est aussi la deuxième partie que je veux qu'on comprenne dans cela. C'est que les gens dans l'Église sont appelés à participer avec leur bien à celui qui enseigne. Pourquoi à celui qui enseigne? Parce que dans l'Église, Dieu y a placé comme des superviseurs, je dis ça entre parenthèses, pour diriger le corps de Christ. On sait que l'Église appartient à Jésus. Mais Jésus, sur la terre, dans ses églises, il a mis des gens qui supervisent les autres. Ça, c'est ceux qui enseignent la parole dans l'Église. Juste pour vous donner un passage plus clair dans ce sujet-là, dans Actes, le chapitre 20, le verset 28, ça dit, « Prenez donc garde, parce que l'apôtre Paul est en train de parler aux anciens des églises. Il a rassemblé tous les pasteurs, les apôtres, les prophètes, ceux qui dirigent dans les églises. Il les a rassemblés, puis il est en train de leur faire un discours. Puis là, il leur a dit dans leur discours, « Prenez donc garde à vous-même, en parlant dans notre vie personnelle, et prendre garde à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Là-dedans, on remarque deux gros points importants. Premièrement, l'Église, elle appartient au Seigneur. C'est le Seigneur qui s'est acquise son Église par son propre sang. Jésus a versé son sang pour que l'Église lui appartienne. L'Église appartient au Seigneur, mais le Saint-Esprit, il a établi dans l'Église des évêques pour paître l'Église du Seigneur. Des évêques, le mot évêque, c'est des surveillants. Puis paître, c'est pour paître, c'est comme nourrir. Paître le troupeau, c'est l'alimenter, s'occuper du troupeau, garder les moutons, diriger. Les dirigeants, c'est comme si c'est leur fonction de diriger l'Église puis de la nourrir spirituellement. Ça, c'est d'expliquer la parole de Dieu. C'est celui qui enseigne. Autrement dit, celui qui enseigne, qui donne la pensée qu'on doit avoir à l'Église, parce que chaque Église, ils ont comme des visions différentes. Il y a des Églises qui mettent plus l'accent sur l'aide aux pauvres. Il y en a d'autres, des Églises qui mettent l'accent sur l'évangélisation. L'autre, ils vont mettre l'accent sur ce qui se passe dans l'Église, les dons spirituels, la cure d'âme, toutes sortes d'affaires. Fait que chaque Église, ils ont des spécialités, puis les enseignements sont apportés par celui qui enseigne. Bon, fait que ceux qui enseignent, c'est parce qu'ils ont été placés là par le Saint-Esprit pour diriger l'Église, pour l'emmener à quelque part, l'Église, selon la vision que le Seigneur communique, selon les révélations que le Seigneur communique. Fait que les pasteurs, ceux qui sont établis évêques, qui veut dire surveillants, fait qu'il y a des gens qui sont surveillants pour la nourrir puis la guider, l'Église. Fait que là, c'est pour ça que Paul dit que à celui à qui on l'enseigne la parole, mais qui fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire que les gens qui sont dans l'Église doivent participer à soutenir la vision que le pasteur y a dans son Église. Le soutenir, mais c'est dans différentes façons, mais dans ce verset-là, c'est particulièrement financièrement. Dieu s'attend à ce que ses brebis pourvoient au coût que ça coûte. Surtout quand ça va jusqu'au point dans la Bible que le pasteur devra vivre de l'Évangile, qu'il devra avoir un salaire par l'Église, mais on n'est pas rendu là. Ça prend des églises qui sont quand même assez grosses pour être capable de payer. Mais puis moi, pour le moment, je travaille, il n'y a pas de problème. Mais le but du Seigneur, c'est qu'un surveillant, un enseignant finisse par être pays. Mais les gens doivent quand même réaliser qu'ils doivent faire participer à l'ouvrier de leurs finances. La question qu'on peut se poser, sommes-nous des gens qui aident le corps de Christ à avancer? Ou on est des gens indifférents, qu'on s'en fout puis on dit, wow, que l'Église, il s'arrange tout seul, puis moi je fais ce que je veux. Ou sommes-nous des gens qui participent et qui soutiennent par la prière, financièrement ou dans le service? C'est là qu'il est important de réaliser que tous les membres de l'Église devraient être en train de soutenir puis de participer. Mais financièrement, fait partie du lot, comme aussi de participer dans la prière ou dans les services à faire pour que l'Église elle avance dans les œuvres que Dieu a préparées. L'Église initiale, quand on parle de l'Église initiale, la première Église qui s'est formée à Jérusalem, il avait saisi la vision de Dieu en s'unissant ensemble pour soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que les gens travaillaient en équipe à l'Église, la première Église. Puis on voit ça dans les Actes au chapitre 4, les versets 34 et 35. Ça dit que l'Église supportait les pauvres. Puis dans ce contexte-là, ce que je vais emmener, parce que pas rien que ce sujet-là, de soutien des pauvres, mais ça n'est un entre autres que je vais utiliser ce soir. Il dit car il y avait parmi eux aucun indigent. Ça veut dire que parmi toutes les 5000 qui se sont convertis, qui étaient dans l'Église, il y avait personne qui manquait de quoi que ce soit. Tout le monde avait de la nourriture, tout le monde avait une place pour rester, tout le monde avait ce qu'il fallait financièrement. Ça nous dit. En continuant la lecture, ça dit « Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » Voyez-vous, la première Église du Seigneur est une Église de communauté. C'est une Église qui marche ensemble. Puis s'il y avait des gens qui avaient des terrains, des maisons additionnelles, fait que c'est sûr qu'ils vendaient pas leur maison principale, là. Le monde faut continuer à rester à quelque part, mais ils vendaient leur maison additionnelle, ceux qui avaient des chalets, ceux qui avaient des terres, d'autres terres qui servaient pas, ceux qui avaient de quoi, ils vendaient puis ils amenaient l'argent aux pieds des apôtres. Voyez-vous, la vision de tout cela, c'est que c'est pour ça que ça rejoint aussi le passage que l'apôtre Paul nous dit, ça dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Fait que les gens dans les premiers disciples mettant en pratique cette chose-là, ceux qui y vendaient leur propriété, puis ils apportaient l'argent aux pieds des apôtres, puis c'est les apôtres qui décidaient de la vision, comment gérer les choses pour la distribution, s'il y avait de la distribution à se faire, ou s'il y avait des activités d'évangélisation, ou s'il y avait des choses à faire dans leur groupe, là, comme mettons s'il y aurait eu un bâtiment, et ce que ça coûte, puis tout ça. Mais les gens amenaient l'argent aux apôtres, c'est les apôtres qui géraient avec la vision de Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est de même que ça marche l'Église. Puis l'apôtre Paul, de ce qu'il est en train d'écrire, l'apôtre Paul, ça rejoint cette idée-là de ce que les premiers disciples faisaient, c'est de participer avec le pasteur pour accomplir l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est pas juste l'œuvre du pasteur, c'est l'Église de toute l'Église. C'est l'œuvre à faire par toute l'Église. Tout le monde devrait être en train de participer à faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est comme si on est toute l'Église là, c'est comme un champ de vignerons, puis il y a du monde qui travaille à mettre l'engrais, il y en a d'autres qui arrosent, il y en a d'autres qui émondent les plants, puis il y en a d'autres qui font la cueillette, puis il y en a d'autres qui font du jus de raisin avec les raisins. Mais tout ça là, ça nous démontre que chacun a sa place dans l'Église, puis tout le monde sert le Seigneur comme il le peut. Dieu lui voit la manière. Il voit notre manière face à notre réponse, parce qu'il voit notre manière d'agir. Il manque un mot dans ma phrase. Il voit notre manière d'agir, notre manière d'être face à notre réponse aux divers besoins de Dieu. Dieu nous voit aller. S'il y a des besoins dans l'Église, Dieu, il s'attend à ce qu'on rentre dedans puis qu'on puisse faire ce qui a à être fait. Mais si on n'est pas là, puis on dans le sens on fournit pas, soit de notre temps, de nos prières, de notre argent, notre investissement, mais on rencontre pas les besoins. Puis les besoins seront pas réglés. Parce que être chrétien, ça devrait nous mettre en nous une poussée pour faire ce que le Seigneur demande. Quand tu marches par l'esprit, tu te dis, ben là, le Seigneur s'attend à ce qu'on puisse faire telle et telle chose, mais là, faut avoir une poussée de dire, c'est moi qui vais le faire. Faut que tout le monde se dise ça, qu'on participe, on fait notre part pour faire avancer. Jacques, il nous parle au chapitre 2, verset 15, d'un exemple là-dessus, que si on ne le fait pas, de pourvoir ce que ça prend, mais on passe à côté. Ça dit, si un frère ou une sœur sont nus puis manquent de nourriture de chaque jour, puis que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, puis si vous leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? À quoi ça sert de dire au monde, allez, arrangez vos problèmes, nourrissez-vous, habillez-vous, mais s'ils l'ont pas, des mains, la nourriture puis le vêtement, ils pourront pas le faire. Ça sert à rien de leur dire d'aller puis de le faire. Ça veut dire que c'est à nous à pourvoir à ce que les gens puissent avoir de quoi manger puis de quoi s'habiller. Fait que tant qu'à être l'Église du Seigneur, mais il faut embarquer dans cela puis de participer à la faire avancer cette œuvre-là ensemble, parce qu'on c'est un travail d'équipe. On continue dans Galates, il dit, parce que là, l'apôtre Paul développe son point, il dit, puis moi je vous dis ça sur cette idée-là, si on vit que pour nos besoins humains, ben nous récolterons de notre chair la corruption. Si nous semons dans le chemin de l'esprit, nous moissonnerons la vie éternelle. Dans Galates 6:8, ça dit, celui qui sème pour sa chair, c'est Paul qui est en train de dire ça. Il est en train de dire, avant, participez avec, faites part de vos biens à celui qui enseigne. Puis il dit, si on sème pour notre chair, on va moissonner de la chair la corruption. Mais si on sème pour l'esprit, on va moissonner de l'esprit la vie éternelle. Fait que le verset avant, il parle de finances. Puis le verset après, il dit, si tu sèmes pour ta chair avec tes finances, tu vas moissonner de la corruption. Puis si tu sèmes pour l'esprit avec tes finances, mais tu vas moissonner de l'esprit la vie éternelle. Wow! Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, Dieu voit nos œuvres, puis l'œuvre de Dieu doit être faite, puis c'est en faisant ce que Dieu s'attend de nous qu'on démontre qu'on l'aime puis qu'on a la foi en lui, puis c'est ça qu'il va faire, qu'il démontre à Dieu qu'on a la foi qui sauve. C'est ça qu'il est en train de dire. Paul y encourage les chrétiens à pas se relâcher dans nos efforts d'obéir au Seigneur. Dans Galates 6:9, ça dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ça veut dire qu'il y a un moment où on va moissonner. Moissonner, c'est récolter de ce qu'on a comme semé. Si on sème dans le royaume de Dieu, on sème de nos prières, de nos finances, on sème aussi de notre investissement personnel, de notre temps et de nos efforts, mais on va moissonner au temps convenable. Dieu sait quand est-ce que c'est le temps de moissonner, puis il y a des projets pour nous, pour nous rendre riches spirituellement devant lui. Mais un jour, on va moissonner parce que Dieu y est fidèle, puis si on se relâche pas, on va récolter. Un jour, le Seigneur va nous remettre lui-même les récompenses pour notre investissement. Dans Hébreux 6:10, ça nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Voyez-vous encore, la même idée revient que Dieu voit notre travail, tout ça, mais il voit notre amour qu'on montre pour son nom. Comment je vais démontrer que j'aime le Seigneur? Comment je vais démontrer que j'aime son nom, que je suis content d'être sauvé? Mais il dit qu'on va rendre des services aux saints. Ça veut dire qu'on va s'occuper des chrétiens. On va s'occuper des gens, puis on va s'investir de plus en plus. On va mettre de nos prières, de notre argent, puis de notre temps à les aider. Puis c'est de même qu'on montre au Seigneur qu'on a de l'amour pour son nom. Si on veut montrer à Dieu qu'on a de l'amour, c'est pas juste en lui disant « Oh Seigneur, tu sais que je t'aime ». C'est pas juste ça que le Seigneur va entendre. Il veut nous voir en train de s'investir pour nos frères et sœurs. C'est de même qu'on le démontre. Si on veut pas s'investir pour nos frères et sœurs, on est en train de dire au Seigneur, je t'aime pas. Ouais, mais c'est pas le Seigneur que j'aime pas, c'est les gens qui nous m'entourent que j'aime pas. C'est pas grave. Jésus, lui, considère que si on aime vraiment Jésus, ben on va aimer les frères et sœurs, puis on va en prendre soin. Puis si on est en train de le faire, d'aimer frères et sœurs, puis d'en prendre soin, ben on est en train, en même temps, de démontrer au Seigneur qu'on l'aime. Le dernier verset, c'est une exhortation encore. Pratiquons l'amour des uns des autres. Dans Galates 6:10 encore. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voyez-vous, la priorité pour Jésus, c'est qu'on s'occupe de ses brebis en premier. Même si on est une personne qui veut bien faire pour les autres dans le monde, la priorité, c'est surtout envers les frères dans la foi. Puis l'autre point, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, on a encore l'occasion. Quand on rencontre des gens qui ont des besoins, ils ont besoin d'un coup de téléphone, ils ont besoin d'un lift pour aller les mener à l'église, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de quelque chose. C'est des occasions que Dieu nous donne de pouvoir lui démontrer qu'on l'aime. C'est des occasions qu'on a de pratiquer le bien, puis on démontre qu'on aime les frères et sœurs. Amen. Fait que l'exhortation, c'est au sujet de s'impliquer davantage à aimer les frères et sœurs, puis à servir le Seigneur au milieu des frères et sœurs, en les faisant participer de tous les moyens, que ce soit par la prière, des finances. Dans ce passage-là, ça parle beaucoup des finances, d'investir financièrement pour aider, puis aussi de l'investissement de notre temps. Que le Seigneur nous conduise dans tout cela, pour qu'on puisse devenir de plus en plus versé vers les autres. Amen.